un dissident pakistanais nommé Taha Siddiqui. Nous sommes le 10 janvier 2018 à Islamabad. Il est 8h12. Un homme monte dans un taxi, direction l'aéroport pour London. Vous voyez comme il a l'air relax, à se fumer son joint, sans se soucier du chauffeur. Tout à coup, des hommes armés braquent le taxi, ils le sortent violemment du véhicule, le tabassent et le kidnappent en pleine rue, sous les yeux d'une patrouille militaire qui ne moufte pas. Clap moteur. On la garde, elle est bonne.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
Bien sûr qu'elle est bonne, tu m'étonnes. C'est pas du cinéma, cette séquence est à la fois la vraie vie de Taha Siddiqui et le début de son roman graphique Dissident Club, dont il signe le scénario chez Glénat avec des dessins d'Hubert Maury. Terrible et passionnante histoire que celle de Taha Siddiqui, qui aura tenté de combiner deux identités incompatibles en dictature, pakistanais et journaliste. Prix Albert Londres 2014 pour « La guerre de la polio », cet exilé à Paris continue d'informer tout en ouvrant un bar parisien à tous les dissidents. Bonjour Taha Siddiqui.
Bonjour Yasmine.
Et malhaba. Je vous remercie de nous accorder cette interview en français, car je sais que vous n'êtes pas encore confortable dans notre langue. Donc si vous avez envie de switcher en anglais de temps en temps, pas de souci.
Je vais essayer.
Est-ce que vous avez compris le fin mot de ce qui vous est arrivé le 10 janvier 2018, c'est-à-dire qui vous a kidnappé et qu'est-ce qu'on voulait faire de vous?
J'ai toujours pas l'identité de la personne qui fait cet enlèvement, mais en Pakistan, il y a une chose qui s'appelle enforced disappearances en anglais. C'est quelqu'un qui disparaît par force. Et il y a plus de 20 000 personnes en Pakistan qui disparaissent comme ça. Et il y a beaucoup d'associations, les ONG de droits d'homme qui suspectent le militaire pakistanais qui fait ça. Et avant de 7 jours, avant le 10 janvier, qui juste a vécu l'enlèvement, j'ai reçu plusieurs fois la menace du militaire pakistanais qui m'a dit pour arrêter mon travail, arrêter mon enquête de le journalisme, parce que en Pakistan, le militaire, il dirige tout, mais en cachet.
Clandestinement.
Clandestinement. Et j'ai fait l'enquête de ça, et le militaire n'aime pas ça.
Voilà, donc on a déjà le décor. Hein. Ce sont vos activités de journaliste qui vous ont valu cette tentative d'enlèvement. Vous savez donc, Taha Siddiqui, que vous avez simplement échappé au pire.
D comme dictature, mode d'emploi.
Avant de raconter votre parcours, un petit mot de ce prix prestigieux que vous avez reçu en 2014 avec Julien Fouché et Sylvain Le Petit, le prix Albert Londres pour « La guerre de la polio » qui a été diffusée sur France 2. C'est une enquête saisissante sur la guerre livrée par les talibans contre le vaccin anti-poliomyélite en Afghanistan et au Pakistan. Extrait.
Tout le monde a refusé ce vaccin. C'est ce qu'il faut faire.
Pourquoi ?
Ce n'est pas un bon vaccin pour nous.
Tout le monde pense qu'il est mauvais. Pas seulement ici, mais dans toute la province.
Le problème est simple. On ne sait pas ce qu'il y a dedans.
Le ton monte. Nous ne sommes pas les bienvenus. Le mollah intervient. Il nous expulse de la mosquée. C'est un fondamentaliste connu pour être un sympathisant des talibans.
Allez, il faut qu'on parte maintenant.
À mon tour de vous poser une question. Vous savez, vous, d'où il vient ce vaccin ? Il vient d'Amérique. Dites-moi, depuis quand les Américains nous veulent du bien à nous, les musulmans? Depuis quand les juifs sont-ils nos bienfaiteurs? Je vous rappelle qu'il est écrit dans le Coran que les juifs veulent détruire l'islam. Ils veulent en finir avec les musulmans.
Pour un seul majeur, un court extrait de La guerre de la polio qui vous a valu le prix Albert Londres, Taha Siddiqui. Votre présence, j'imagine, pendant ce reportage, était absolument indispensable pour pouvoir approcher les populations sur place, mais en même temps, c'était risqué. Quel risque vous avez pris pour faire cette enquête ?
Pour cette enquête, on visitait la région du Taliban.
Oui.
Et le Taliban, il n'aime pas le journaliste aussi. Il y a 2-3 fois dans le film aussi, on fait l'entretien d'une vaccinateur qui est tuée par Taliban.
Une personne d'une ONG qui fait les vaccinations,
oui,
qui a été tuée par les talibans.
Oui, par les talibans. Et on a contacté la famille de cette personne et on fait l'entretien. Et quand on est là, soudain, le voisin qui arrive et il dit « Oh, le taliban, il est cherché le journaliste et dépêche. »
Pour fuir.
Et plusieurs fois, c'est comme ça. Et aussi, vous êtes montré l'extrait juste maintenant, plusieurs de fois quand je demande avec le moullah,
l'imam,
l'islamiste, l'imam, pourquoi vous êtes contre le polio, et il m'a demandé pour mon croyance.
Vous, pour votre croyance, est-ce que vous êtes musulman vous-même?
Oui, et je suis un athée. Mais en Pakistan, je n'ai pas déclaré ça parce
vous
que ça.
Vous pouvez pas le dire.
Non, ça, c'est directement la mort. Et plusieurs fois dans ce documentaire, plusieurs personnes m'ont demandé eh, mais vous n'êtes pas musulman. Et je ne sais pas comment j'ai répondu à cette question.
Alors, pour quelles raisons profondes les talibans sont contre le vaccin anti-polio?
Il y a beaucoup de théories du complot. Le taliban pensait dans le vaccin, il y a les choses haram, il y a les choses
interdites,
le cochon.
Oui, il y a du cochon dans, dans le vaccin.
Le vaccin, ou il y a le médecin qui stérilait les enfants. Et ils pensent que ça, c'est un complot occident pour arrêter l'augmentation de la population de musulmans. Mais aussi, il y a une chose qui fait cet complot, parce qu'en 2011, quand le service secret des États-Unis, il cherchait Osama Bin Laden, avant de ça, il fait un faux campagne d'anti-vaccin dans le quartier de Osama Bin Laden. Et après ça, tout le taliban, tout l'islamiste dit, on a toujours dit le vaccin c'est haram, et à cacher du vaccin, il y a le service secret de l'Occident.
Alors je suppose que ce documentaire n'a pas été diffusé ni au Pakistan ni en Afghanistan, bien sûr, hein, la guerre de la polio. Ce métier de journaliste, Taha Siddiqui, vous l'avez fait un petit peu par hasard, on va le raconter hein, juste après. Vous l'avez payé cher, hein, en tout cas ce métier. Est-ce que vous regrettez d'avoir pris la voie du journalisme?
Non, jamais. Jamais, je n'ai pas regretté parce que pour moi, je suis très passionnant avec le travail comme ça. Parce que ça me donne de comprendre mon pays. Et ça, j'aime ça. Unreroute the rivers, let the damned water beep. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hits the banks of that hard, dry land. Clap your hands now. Head and clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Mm-hmm. Get ready for the wave. It might strike like a final flood. The people haven't drank in so long. The water won't even make mud. After it comes, it might come with a steady flow. Grab the roots of the tree down by the river. Dip your cup when your spirit's low. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank.
dip down and take a drink and fill your water tank. The rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty. Let the liquid spirit free. The folk are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind of the water hidden banks of hard, dry land. Clap your hands now. Clap your hands now.
De la musique soul, mais oui, dans le programme en sol majeur d'un journaliste pakistanais, Taha Siddiqui, que vous rappelle ce Liquid Spirit de Gregory Porter, qui fait du bien, hein, après ce qu'on a entendu. Pourquoi cette chanson ?
Cette chanson, c'est jazz, j'aime le jazz, en fait. La chanson, il me rappelle Karachi.
Ah oui ?
Parce que c'est Liquid Spirit, il parle de le ris de l'eau. Et en Karachi, il y a la crise de l'eau, il n'y a pas de l'eau. Et le pauvre, il n'y a pas de l'eau.
Et ça va mieux quand on clap des hands.
Oui, avec ça, oui, bien sûr.
Taha Siddiqui dans le fauteuil d'un sol majeur, où l'histoire d'un Pakistanais radicalisé, devenu journaliste dissident.
Est-ce qu'avant de manger, vous bénissez la nourriture?
Taha, est-ce que vous dites Bismillah avant de manger?
Quand je suis grandi de mes parents, oui, c'est nécessaire avant de commencer de manger, pas juste manger, avant de commencer tout. Il y a cette mot Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
Et aujourd'hui?
Non, aujourd'hui, non. Je n'ai pas de croyance. Je suis athée et j'ai arrêté de pratiquer l'islam depuis quelques années.
Pourquoi?
Parce que quand je suis devenu un père, en 2013, c'est mon fils qui naît. À cette époque, je suis agnostique. Je ne sais pas, il y a le Dieu ou non, mais... Après, j'ai cherché, parce qu'en Pakistan, c'est très difficile pour chercher l'idéologie les autres.
Il n'y a pas le choix.
Il n'y a pas de choix. Vous êtes musulman ou vous êtes la croyance d'une autre religion. Et j'ai besoin d'expliquer ça à mon fils qui grandit. La religion commence à arriver. J'ai trouvé la religion, c'est une idéologie politique, en fait. Mmh. Et quand j'ai trouvé ça...
C'est votre vision qui a changé. On va le raconter, Taha, parce que c'est un cheminement incroyable en même temps. Vous êtes né à Jeddah, en Arabie Saoudite, il y a 36 ans. Votre père y faisait des affaires. Et comme vous commencez à le raconter, vous avez grandi auprès d'un père totalement radicalisé. C'est vrai que la liste des interdits quand vous étiez tout petit est énorme. Il y a plein de choses que vous ne pouviez pas faire.
Oui, oui, il y a plein de choses.
Ça commence par l'anniversaire.
Oui, c'est interdit dans l'islam que mes parents pratiquaient. Parce que quand je suis petit, je vois le changement de mon père, la radicalisation de mon père. Je me souviens, j'ai dit « papa ». Et un jour, il dit... papa, c'est haram, c'est interdit, parce que ça, c'est le mot occident. Maintenant, vous êtes commencé à dire baba. Et ça, c'est marqué bien dans ma tête. C'est pourquoi c'est comme ça. Et petit à petit, il y a l'anniversaire qui est interdit. Et bien sûr, le dessin de l'humain.
Dessiner Superman,
oui,
dessiner
Superman,
Batman,
tout ça, c'est interdit. Et c'est pour ça que je suis très heureux pour publier un bon dessiné,
ouais.
Un petit acte de résistance.
Oui, grand acte de résistance même.
Oui.
Oui, oui. Parce que les événements du Pakistan, il faut le dire aussi, vont jalonner votre vie. Quand est-ce que vous êtes enfant encore?
Oui.
Quand est-ce que ce nom de Ben Laden, vous l'entendez pour la première fois?
C'est avec mon père, avec les amis de mon père.
Qui sont tous des djihadistes, en fait. Hein.
Oui, il est avec le groupe qui s'appelle Lashkar-e-Taiba, l'armée de pur en ourdou, la langue natale du Pakistan. C'est soutien de tous les djihadistes comme ça pour la guerre contre la Soviet Union en Afghanistan.
Ouais. Donc, quand vous regardez les attentats du 11 septembre à la télévision, vous regardez ça en famille, vous êtes fier de ces attentats?
Pas moi, j'ai pas fierté, mais mon oncle, oui, comme j'explique, moi, j'ai pas compris pourquoi il y a l'attentat comme ça et le gens, il est mort.
Vous commencez à vous poser des questions. Pourquoi est-ce que des musulmans tuent?
Oui, parce que pour moi, toute ma vie, quand j'ai grandi, il y a l'hypocrisie dans le message de l'islam. L'islam, c'est une religion de paix. Mais après, il y a mon oncle et il y a le djihadiste dans la mosquée en Pakistan que j'écoute aussi. On a tué toute l'infidèle, on a tué l'attentat du 11 septembre, c'est bien et tout ça.
Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir donc ce cheminement dans votre tête. Vous commencez à réfléchir en observant. Vous avez votre père qui vous intime de devenir un musulman djihadiste. Son rêve à lui, c'est que vous combattiez un jour en tant que mujahidine ou que même vous mouriez en martyr. Mais ce qui est intéressant chez vous, Taha, c'est que vous avez du mal au début à comprendre que le Pakistan est une dictature, même quand Musharraf, qui est le général chef d'état-major du pays, prend le pouvoir par la force en 99. Vous n'arrivez pas à comprendre que c'est une dictature à ce moment-là.
Non, non, parce que en Pakistan, le public, il n'est pas connu la vraie démocratie. Il n'est pas connu comment ça marche, la vraie démocratie. Et après, l'armée pakistanaise, elle fait beaucoup de propagande contre la politique civilien.
Contre la démocratie.
Oui, contre la démocratie. Il est dit, l'armée, il connaît le pays bien, nous connaît comment ça marche. Parce qu'il y a toujours crise économique, on est pauvre en Pakistan.
Mais pour vous, les militaires sont des sauveurs.
Oui, en début. En début, quand je suis grandi avec mon père, avec la société pakistanaise, je pense que le militaire, c'est une force positive. Mm-hmm. Mais petit à petit, j'ai changé mon avis.
Le clivage entre vous, le désaccord, le misunderstood, entre vous et votre père, Taha Siddiqui, il va s'accentuer, will increase,
oui.
Lorsque vous intégrez le prestigieux IBA, c'est-à-dire l'école d'administration, c'est votre ENA à vous, et que vous allez rencontrer votre premier amour, une certaine Sonia, qui n'est pas sunnite, elle est chiite. Et ça, c'est un très gros problème.
Oui, oui, ça, c'est vraiment le clivage entre, juste pas mon père et moi, mais aussi mon compréhension de l'islam. Parce que, pour moi, l'islam, il est une religion qui unité, tout, mais j'ai vu avec cette fille, j'ai pas d'option pour
faire votre vie avec.
Oui.
Parce qu'on a du mal à comprendre de l'extérieur. Là, il faut être initié. Les sunnites et les chiites sont musulmans. Qu'est-ce que les sunnites reprochent aux chiites?
En Pakistan, le sunnite, il y a une compréhension dans la tête de le public. Le chiite, c'est l'infidèle aussi.
Pourquoi?
Ils pratiquaient leur religion un peu différent. Mais ça, c'est l'identité politique, en fait.
Oui,
c'est l'Iran et l'Arabie saoudite. Il y a la guerre entre deux, l'école de l'islam.
Quand est-ce que vous avez la révélation pour le journalisme? Quand est-ce que vous vous dites « j'ai envie d'enquêter, j'ai envie de faire du journalisme pour comprendre mon pays » ?
Ça, c'est l'époque de mon dernière année dans mon université. Un jour, le premier ministre qui visitait notre université...
Shaukat Aziz ?
Shaukat Aziz, oui. Et Shaukat Aziz, après le discours... Il y a un petit rencontre avec le journaliste.
Oui, on ne va pas appeler ça une conférence de presse, mais vous avez pu l'interviewer.
Oui, et j'ai vu ça et j'ai dit, il y a un boulot, il y a un travail qui donnait nous
la possibilité pour
poser la question. Parce que toute ma vie, mon père, mon société en Pakistan, l'islam m'a dit... La question, c'est interdite. Se soumettre. Le mot musulman, c'est la
traduction. Islam, ça veut dire soumission.
Soumission. Et pas poser la question.
Oui, sauf que vous posez des questions qui dérangent le Premier ministre, évidemment. Et ça, il faut le lire. Donc, vous allez travailler pour une chaîne hérétique, une chaîne d'infidèles, c'est-à-dire sur CNBC, une chaîne américaine. Donc, c'est haram, ça, aux yeux de votre père. Ça vous vaut une belle engueulade. Mais vos vrais débuts, your beginnings, en tant que journaliste, vous les faites sur GeoNews, qui est la plus grosse chaîne d'information au Pakistan. Et ça, vous le faites en 2007, quand Karachi est en pleine anarchie.
Oui, ça, c'est les années dernières pour le pouvoir du général Musharraf. À cette époque, il y a chaos politique. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de manifs contre le dictateur et ça me donne une vraie vision comment le pays Pakistan il est dirigé par la militaire pakistanaise.
Alors tout ça, vous le racontez dans l'album Dissident Club qui, je le rappelle, sort aux éditions Glénat. On en arrive à l'année 2007, donc page 214, lorsque pour GeoNews, Taha, vous partez couvrir le comeback, le retour au pays de Benazir Bhutto. Et dans la voiture qui vous amène sur les lieux du meeting, le chauffeur et le caméraman sont en train de se prendre la tête. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu fais la gueule, Faisal ? Bah, je fais la gueule parce que j'ai pas envie de servir la soupe à cette voleuse. Benazir, une voleuse ? Tu parles le langage des militaires, de mouches et de la clique. La famille Bhutto, elle a tout donné au Pakistan. Ben voyons, le temps de ses deux mandats de Premier ministre, elle a tellement baigné dans la corruption, mais pas du tout. C'était un complot. C'était un complot de l'armée pour reprendre le pouvoir. Lorsque tout à coup, dans la voiture, « Allô ?» À ce moment-là, Taha Siddiqui, vous recevez un coup de téléphone qui dit quoi ?
Il y a un attentat, suicide bombing... contre
le meeting de Benazir Bhutto.
Et mon quartier général de mon chaîne m'a demandé pour bouger là-bas. Et quand j'arrive là, il y a le mort partout. Il y a
des voitures calcinées.
Il y a beaucoup de morts.
C'est un massacre.
Ouais, c'est un massacre, oui, c'est ça. C'est vraiment choqué.
Et là, vous vous demandez si vous êtes vraiment fait pour être journaliste.
Oui, c'est très violent, la profession du journalisme au Pakistan. Mais ça me donne aussi le poussant.
C'est-à-dire que ça vous donne l'impulsion de continuer ?
Continuer, oui,
ouais,
c'est
d'accord.
Ça. Oui.
Alors, on va partir 6 ans plus tard. Vous allez être convoqué, summoned, par le général Bajwa, qui vous accueille avec faste. Avec une tasse de thé, mais surtout avec des menaces. He threatens you. De quelle manière il vous menace ?
Ça, c'est le général Bajwa, c'est le chef du département de médias, le militaire.
C'est le ministère de la communication de l'armée.
Qui s'appelle ISPR, ESPR en français. Mm-hmm. Et il m'a invité pour un thé, mais je n'ai pas d'option pour refuser. quand j'arrive là, il est très
charmant
et tout ça. Mais après quelques discussions, il m'a dit Taha, vous êtes devenu un père récemment, vous êtes en famille et vous êtes pakistanais. Vous n'êtes pas journaliste avant, citoyen pakistanais. Et vous faites comme nous faisons pour le Pakistan.
Oui, oui.
Et après, vous êtes pensé pour votre famille. Pour moi, c'est la première fois que le menace directement comme ça.
Sur votre famille. Oui. Alors, il y a un dialogue savoureux, si j'ose dire, tristement savoureux. Vous dites au général Bajois, c'est cool d'éradiquer, les terroristes. Et lui vous répond, mais comment vous osez appeler terrorisme le djihad ? Alors, vous allez partir effectivement en vacances avec femme et enfant, Taha Siddiqui. Mais l'actualité va vous rattraper. Vous apprenez que la chrétienne Asia Bibi risque d'être pendue. Vous êtes bouleversé parce qu'en 2011, vous avez fait un doc sur elle qui a été, je le rappelle, accusée de blasphème pour avoir puisé de l'eau. Elle aurait souillé l'eau puisqu'elle est chrétienne, donc impure aux yeux des sunnites. Et dans ce documentaire, vous interrogez le directeur, on va écouter un extrait, vous interrogez le directeur d'une école catholique, Joseph Nadim, pour qui les accusations ne tiennent pas. Il vous montre le jugement rendu par la Cour de justice.
Elle aurait dit, c'est écrit ici, que le Coran n'est pas le livre d'Allah, qu'il a été écrit par la main de l'homme. Et ensuite, que le prophète aurait épousé Khadija bint Khuwaylid, sa première femme, juste pour sa richesse. Je suis un homme éduqué, et même moi je ne connais pas cette histoire. Tout le monde est au courant de cette loi sur le blasphème. Alors pourquoi les gens iraient se mettre en danger ? Personne ne ferait ça.
En précisant pour un seul majeur qu'il y a 3 millions environ de chrétiens au Pakistan, c'est-à-dire à peine 2% de la population, c'est la minorité stigmatisée du pays. Cette affaire, Taha Siddiqui, cette affaire Asia Bibi a provoqué une polémique, controversy, autour de cette loi interdisant le blasphème au Pakistan. Cette loi, elle a été promulguée en 86 sous la dictature du général Zia-ul-Haq. Alors là, avec cette affaire de Asia Bibi, vous êtes écœuré, disgusted, vous êtes.
Bien sûr, parce que quand j'ai fait cette enquête, j'ai rencontré beaucoup de gens qui accusaient Asia pour le blasphème. Et quand je demande avec le imam dans la mosquée à côté de la maison d'Asia Bibi dans la petite ville, le imam, il m'a dit, elle est blasphémée. Et j'ai dit, il a dit quoi? Il m'a dit, non, on n'est pas répété ça. Après, je demande avec le voisin qui aussi accusait Asia, c'est quel mot il a dit? La femme m'a dit, non, ça c'est interdit pour répéter. Et après, je suis allé à le commissaire de le quartier et je demande avec le policier qui fait l'enquête et je demande qu'est-ce que elle dit qui
blasphématoire.
Et il m'a dit non, on n'est pas à répéter ça, c'est le blasphème. Et je demande OK, montre-moi le porte-plante. Dans le porte-plante, il a dit le mot que je n'ai pas répété ici.
C'est kafkaïen,
quoi. Oui, tout le temps, il n'y a pas de mot qu'il dit, mais il est condamné de mort pour ça. C'est dégueulasse, comme vous dites, c'est ridiculous.
Alors, c'est plus que ridicule, c'est grave.
C'est grave.
Et justement, toutes ces histoires autour du blasphème, elles coïncident aussi avec, en Europe, cette affaire des caricatures de Mahomet. Comment vous vivez cette affaire-là, le fait que l'on caricature le prophète Mahomet ?
Ça, c'est nécessaire en Pakistan, pour moi. Une chose comme Charlie Hebdo, parce que la majorité, il est caché tout. Mais pour moi, c'est nécessaire pour ouvrir la société à une chose comme le Charlie Hebdo en Pakistan.
Mais est-ce que vous avez rencontré des caricaturistes qui travaillent clandestinement au Pakistan.
Il y a le caricaturiste qui existe, mais il n'est pas dans le mainstream.
Oui.
Le caricaturiste en Pakistan, il n'est pas touché le sujet de l'islam, mais pas mainstream aussi.
Mais vous, Taha Siddiqui, vous allez presque plus loin que les caricaturistes, parce que suite à cette affaire d'Asia Bibi, vous êtes allé vous faire tatouer deux mots sur votre bras. Je peux les regarder ?
Oui, oui. Là. Ah. C'est ça.
Ah là là, c'est magnifique. C'est de la calligraphie. C'est donc
la
écrit.
La ilaha. C'est-à-dire, il n'y a pas de Dieu. Mais ça, c'est le premier deux mots. Kalima de l'islam. Toute la phrase, c'est la ilaha illallah, Muhammad Rasulallah.
Il n'y a pas de Dieu sinon Allah et Mohammed et son prophète.
Oui, mais pour moi, j'ai juste metté les deux premiers mots. La ilaha, il n'y a pas de Dieu.
C'est pour proclamer dans votre chair votre athéisme.
Oui, oui, mais un peu de cachet dans mon bras, pas dans mon visage.
Pas sur votre
ça.
Front, bien sûr.
Oui, oui.
Est-ce que le fait d'avoir écrit votre histoire en bande dessinée, Dissident Club, qu'est-ce que ça vous apporte à vous aujourd'hui de voir votre histoire dans ce livre ?
Je suis très heureuse avec ça, mais ça, c'est maintenant, c'est en français. Bientôt, il va sortir en anglais aussi. Mais mon vrai espoir, un jour, il est sorti en ourdou. Le jeune de mon pays, en Pakistan,
les jeunes puissent lire votre histoire, les jeunes pakistanais.
Mais je connais ça, c'est impossible, mais c'est mon espoir.
Bienvenue, Taha Siddiqui, en Gaule, c'est-à-dire en France.
Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Au total,
nous avons... Le Sénat a écrit une nouvelle page du droit des femmes. Ce vote est historique. Nous serons le premier pays au monde à inscrire dans la Constitution cette liberté pour les femmes de disposer de leur corps. Ce vote, au fond, redit...
Depuis quelque temps, je parle, mais je ne vous entends pas. Ou à peine. Où êtes-vous ? Que dites-vous ? Un chuchotement, un demi-mot. Ça serait déjà ça, dit le petit chaperon rouge.
Des, comme 12 France.
Je sais que ça fait peur. Perdre des subventions, perdre des rôles, perdre son
Le
travail.
Président Macron, qui n'exclut pas l'envoi de troupes occidentales en Ukraine, l'inscription de l'IVG dans la Constitution française, et puis le discours de la comédienne Judith Godrèche au César 2024. Ça, c'est l'actualité française. Du moment. Est-ce que vous la suivez, cette actualité, Taha ?
Oui, bien sûr. Parce qu'au Dissident Club,
votre bar, oui.
J'ai fait beaucoup d'activités culturelles, politiques et sociales. Et plusieurs fois, il y a le journaliste qui j'invite ou le militant français qui j'invite et on a parlé du sujet de politique française. Ça m'a intéressé toujours parce que je suis un homme politique, très politique, et j'ai créé mon lieu, le Dissident Club, pour cette raison, pour attirer les gens.
Que tous les dissidents puissent avoir un lieu de parole.
Oui, le dissident de tout le monde et le dissident français aussi qui est bienvenu là-bas.
Qu'est-ce que vous pensez du mouvement MeToo alors, qui encourage la prise de parole sur les violences sexistes, sexuelles ?
Pour moi, je suis le sujet de hashtag MeToo. Et en France, la société, c'est pas comme les États-Unis. C'est la société française, elle est très conservative pour ce sujet. Parce que quand la femme dit qu'il y a un problème, il y a un problème, c'est tout. Ici, toujours... on n'est pas croire la femme et tout ça, ça c'est pas bon, c'est pas bon.
J'ose pas vous demander si vous rêvez un jour d'un MeToo au Pakistan.
Il y a déjà un mouvement comme ça qui s'appelle Aurat March. March comme la marche, ouais. Et Oret, c'est-à-dire, Oret, c'est la femme.
Les marches de la femme.
Femme, mais il a reçu beaucoup de menaces, mais cette, c'est la journée internationale de la femme.
Bah, oui.
Quand le,
on y est.
Quand le Oret marche, demandait l'autorisation pour faire la marche, le gouvernement, il dit non. Et l'islamiste, il est attaqué, il est menacé. Mais je connais beaucoup de mes amies femmes qui...
Qui sont militantes et qui vont faire cette marche.
Oui, qui vont faire ça. Oui, oui.
Est-ce que vous savez, parce qu'en lisant Dissident Club, ça m'a mis le doute dans la tête, s'il y a des violences sexuelles dans les écoles religieuses, dans les madrasas, auprès des mollahs, auprès des imams?
Oui, mais ça, c'est le problème avec le garçon.
Oui.
L'abuse tout sexuel, parce que c'est... Dans la madrasa, l'école islamique, il y a beaucoup d'abus sexuels avec la jeunesse. C'est toujours, ça existe.
Ça, c'est encore un dossier.
Oui.
Alors aujourd'hui, vous êtes donc en France avec votre chapeau melon, presque, je ne sais pas, un chapeau melon que vous avez sur la tête. Vous êtes réfugié politique, on peut le dire avec le sourire. Taha Siddiqui, j'ai cru comprendre que vous n'aviez plus la nationalité pakistanaise.
Non. Non, depuis 6 ans, parce que dans la loi de réfugiés politiques, c'est interdit pour moi pour utiliser la nationalité pakistanaise.
Pourquoi ?
L'État français m'a dit, quand il m'a donné le statut réfugié politique, il m'a dit, maintenant vous êtes protégé par l'État français. Mm-hmm. Et la première condition pour ça, c'est que vous n'utilisez pas votre passeport pakistanaise. Et il m'a donné un titre de voyage pour réfugiés qui expirait depuis 1 an. Et j'ai attendu toujours pour ça.
Vous êtes en colère?
Je suis frustrant, oui. Parce que je demande avec la préfecture, et je demande, mais la bureaucratie française, c'est très difficile. Et plus difficile pour l'étranger en France, je ne sais pas.
Au moment où la France vient de panthéoniser un résistant communiste arménien, Missak Manouchian, et elle vous refuse finalement des droits. Vous comprenez les paradoxes de notre pays?
Oui, oui, aussi. Mais France, elle m'a bienvenue aussi. Parce que
C'est les paradoxes.
Oui, c'est depuis 6 ans, je suis ici, je suis protégé. Mais je n'ai pas le droit comme la citoyenne française, le même droit pour voyager. Je n'ai pas le droit pour voter. Mais j'ai fait toutes les choses comme le citoyen français. Mon fils, il est grandi ici, il va à l'école publique en France. J'ai publié un livre en français. Dirigé un bar dans le 9e, dans Paris. Mais pour moi, je suis très française, mais pas de papier.
Pas de papier. Et pas encore de langue.
Oui, oui. J'espère bientôt.
Oui, c'est en route. J'ai un petit cadeau pour vous. Je vais vous demander de mettre le casque, là, puisqu'on est en studio, Taha Siddiqui. Voilà. Vous avez un petit bouton à droite pour mettre le volume.
Oui, ça va. C'est
voilà. Vous entendez?
Oui, oui.
Alors, j'ai un petit cadeau pour vous, puisque je sais que vous aimez bien les révolutionnaires. Ce cadeau, c'est la bande-annonce d'un film consacré à Bhagat Singh, qui est un héros de la résistance indienne face à la colonisation britannique. Peut-être que vous allez nous traduire cet extrait.
Inqalab ek ladai hai, zulm aur na-insafi ke khilaf.
Inqalab ek hathiyar hai, aadmi par aadmi ka shoshan rokne ke liye.
Long live revolution, down with imperialism. Inqalab zindabad.
Kyon na chahte ho hamari party mein?
Ça s'explique de la révolution. En fait, c'est inqalab, c'est le mot de la révolution. Il est dit que la révolution, c'est le combat de l'homme contre le pouvoir.
Alors,
et après, c'est la répéter tout ça.
Alors, Bhagat Singh, j'ai regardé, il est né dans une famille de Sikhs. Il a rejoint le mouvement de Gandhi. Donc on rappelle, une résistance qui était basée sur la désobéissance civile et la non-violence. Et puis quand Gandhi arrête ce mouvement, Bhagat Singh, lui, il rejoint la lutte armée. Je résume, hein, il va finir par tuer un officier britannique. Bon, il y a une erreur dans ce meurtre. Mais finalement, il sera pendu à l'âge de 23 ans par les Britanniques. Et cette personnalité vous a influencé, Taha?
Oui, bien sûr, parce que pour moi, Bhagat Singh, c'est en fait la vraie résistance. Parce qu'il y a beaucoup de questions avec la violence politique dans tout le monde. Mais pour moi, l'action de Bhagat Singh criait le clivage, il ouvrait l'option pour l'indépendance de l'Asie du Sud.
Oui.
Parce que sans Bhagat Singh, le colonisateur britannique, il n'a pas trouvé la personne comme Gandhi ou Jinnah pour parler, pour trouver une solution pour la liberté.
Oui. Et puis il était athée et il était contre le système des castes. Est-ce que vous avez dans votre panthéon une figure de révolutionnaire français aussi dans la tête?
Pour la Révolution française, je ne sais pas. Non, je ne sais pas.
Danton, Robespierre
Robespierre, je connais Robespierre, mais après, j'ai trouvé l'histoire de la Révolution française, mais il y a beaucoup de polémiques dans cette histoire parce que on a romanticisé la révolution, mais quand vous êtes lire en profonde, vous connaissez, il y a la période de terreur. Mais il y a beaucoup de philosophie française. Il y a le Proudhon, il y a Rousseau. J'ai trouvé en France qui m'a intéressé beaucoup. Oui.
On arrive à la fin de l'émission. Avant de peut-être partager un poème dans votre langue en ourdou, j'ai encore une question, Tara Siddiqui. Est-ce que vous êtes, je sais, sortie traumatisée de ces années au Pakistan. Est-ce que vous avez aujourd'hui encore des crises de panique?
Dans ma vie, non, parce que j'ai fait plus de 3 ans. J'ai fait la thérapie pour le traumatiser. J'ai fait la thérapie avec un psychologue qui spécialisait avec le trauma de conflit et qui m'a donné beaucoup d'aide pour mon santé mentale. Aujourd'hui, quand je suis « when I'm awake », je n'ai pas de problème, je ne suis pas de panique. Mais quand j'ai dormi, il y a beaucoup de fois, j'ai un cauchemar répétitif. Je suis à l'aéroport au Pakistan et je suis allé à l'immigration. Elle m'a arrêté. Dans l'immigration.
Au service d'immigration, vous êtes arrêté.
Il m'a dit non, vous n'êtes pas de droit pour voyager dehors du Pakistan. Et ça, c'est un cauchemar qui répétait quand j'ai dormi. Mais quand je suis rêve, tout va bien.
Quand vous êtes réveillé, ça va bien.
Oui.
Vous travaillez moins comme journaliste aussi, non?
Non, parce que j'ai un site internet qui s'appelle South Asia Press, qui j'ai dirigé mes mois et qui j'ai publié toujours le sujet du Pakistan, l'enquête du Pakistan. Et maintenant, j'ai commencé le 12e tome pour la Dissident Club.
Ah.
Et ça, c'est aussi un projet journalistique pour moi qui parlait du sujet du Dissident Club aujourd'hui et ma vie en France aujourd'hui.
Voilà, je rappelle que votre Dissident Club, votre bar, il est à Paris dans le 9e, c'est-à-dire pas loin des Folies Bergères.
Oui, c'est la même rue de Folies Bergères.
Vous y êtes allé?
Oui, bien sûr.
Chut, faut pas trop le dire. Hein. Ça, c'est comme le tatouage, il faut pas trop le dire. Est-ce qu'on se quitterait avec un petit poème de Habib Jalib qui était surnommé le poète des masses au Pakistan?
Oui. Aur sab bhool gaye harfe sadaqat likhna, reh gaya kaam hamara hi bagawat likhna. लाख कहते रहे जुल्मत को ना जुल्मत लिखना हमने सीखा नहीं प्यारे बा इजाजत लिखना. J'explique le en français. Tout le monde il est oublié pour écrire la chose vraie. C'est juste moi qui est un traître.
Mm-hmm.
Beaucoup m'a dit arrête votre parole contre le pouvoir, mais j'ai jamais appris pour écrire quelque chose avec la permission de l'État.
J'ai jamais demandé la permission de l'État pour écrire.
Pour écrire.
Merci, Shukriya, Taha Siddiqui.
Shukriya.
C'est le seul mot que je sais en ourdou, donc. Merci d'avoir fait l'effort de cette conversation en sol majeur. En tout cas, on se quitte. Alors justement, encore une dernière question. Est-ce qu'on se quitte avec les rockstars Queen ou bien avec le Michael Jackson pakistanais, Junoon?
Junoun, c'est mieux pour moi.
Ouais.
Oui, oui. Parce que c'est Junoun, je pense, pas beaucoup d'autres écouteurs qui ont entendu ça.
C'est parti. Au générique de cet ensemble majeur consacré à Taha Siddiqui, la bande-son de notre invité en trois bourrasques. Première bourrasque.
Tout le monde a refusé ce vaccin. C'est ce qu'il faut faire.
Pourquoi ?
Ce n'est pas un bon vaccin pour nous.
Tout le monde pense qu'il est mauvais. Pas seulement ici, mais dans toute la province.
Le problème est simple. On ne sait pas ce qu'il y a dedans.
Le ton monte. Nous ne sommes pas les bienvenus. Le mollah intervient.
Ma mosquée.
Il nous expulse de la mosquée. C'est un fondamentaliste connu pour être un sympathisant des talibans.
Allez, il faut qu'on parte maintenant.
Deuxième bourrasque.
Elle aurait dit, c'est écrit ici, que le Coran n'est pas le livre d'Allah, qu'il a été écrit par la main de l'homme. Et ensuite, que le prophète aurait épousé Khadija bint Khuwaylid, sa première femme, juste pour sa richesse. Je suis un homme éduqué, et même moi, je ne connais pas cette histoire. Tout le monde est au courant de cette loi sur le blasphème. Alors pourquoi les gens iraient se mettre en danger? Personne ne ferait ça.
Troisième bourrasque. Deux mots sur votre bras. Je peux les regarder?
Oui, oui. Là. Ça, c'est le premier deux mots, kalima de l'islam. Toute la phrase, c'est La ilaha illallah, Muhammad Rasulallah.
Il n'y a pas de Dieu sinon Allah et Mohammed et son prophète.
Oui, mais pour moi, j'ai juste metté les deux premiers mots, La ilaha, il n'y a pas de Dieu.
Tout ça à retrouver en podcast sur votre application Pure Radio. Caroline Filiette, Théo Raison, Yasmine Chouaki. On vous retrouve la semaine prochaine au bras de Farid Vaïd. Dans un instant, votre journal suivi de La Marche du Monde.